près d'un micro, mais tu veux pas que je chante? Putain, mais t'es con quoi, sérieux? Quoi, tu veux que je parle en rip? Putain, mais c'est nul. Bon, et
RFI, il est minuit à Washington, 7h à Kiev, midi à Ulaanbaatar. L'heure d'un nouveau journal international. Tout de suite, il vous est présenté par Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal, Marion...
Eh bien, ces premiers blocages à la COP17, la Russie et les États-Unis entravent les négociations à cette réunion des Nations Unies contre la désertification. Et alors que s'ouvre le quatrième jour de débat. En Ukraine, Volodymyr Zelensky un peu plus fragilisé dans une affaire de corruption qui éclabousse la présidence. Il a limogé une haute responsable. Le limogeage du populaire ministre de la Défense il y a un mois continue aussi de provoquer des réactions. Les recherches se poursuivent en Centrafrique après l'effondrement d'une mine artisanale qui a fait des dizaines de morts. Et puis en football, le cas Moussiala inquiète le Bayern. Le milieu de terrain, Jamal Moussiala, a fait deux malaises consécutifs sur le terrain et la saison n'a même pas encore commencé. Les débats se poursuivent donc en Mongolie à la COP17 contre la désertification. Réunion des Nations Unies pour trouver des solutions et des financements face à ce phénomène lié notamment au changement climatique. Phénomène qui dégrade les sols et met en danger les cultures. Des débats déjà très houleux, Igor Strauss, alors que s'ouvre la quatrième journée de négociations.
C'est du jamais vu dans l'histoire des COP, des négociations bloquées dès la présentation de l'ordre du jour par les États-Unis et la Russie. Jean-Daniel Cesaro est géographe au CIRAD.
Les États-Unis bloquent sur trois sujets. L'égalité homme-femme. Ensuite, il y avait la question de la participation des communautés locales et des peuples autochtones. Donc, comment améliorer leur représentation à la fois dans la convention, mais aussi dans les financements internationaux. Et après, le troisième sujet, c'est la synergie climat, biodiversité, désertification, où en fait, ils cherchent à gagner en efficacité et qu'on mette plus d'argent sur le terrain.
Des blocages sans grande surprise de la part d'un pays qui a quitté les négociations sur le climat depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et qui n'a jamais participé à la COP biodiversité. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays à entraver les négociations. La Russie, de son côté, a bloqué l'élaboration de la feuille de route pour l'après 2030 en raison de la présence d'Ukrainiens dans un comité scientifique de la Convention. Des positions aux lourdes conséquences, Jean-Daniel Cesaro.
Ça avance pas du tout, c'est impossible de négocier, donc il n'y aura pas de décision sur ces quatre questions.
Alors faut-il négocier sans ces deux grands pays ou tenter de les faire évoluer? Les prochains jours vont être animés en Mongolie lors de cette COP sur la désertification.
Et la guerre en Ukraine s'invite donc dans les débats à cette COP 17. La Russie, qui a lancé d'ailleurs une nouvelle attaque massive sur Kiev cette nuit. 6 personnes ont été tuées dans la capitale ukrainienne et sa région. 20 autres blessés au moins, avec une dizaine d'explosions entendues dans la nuit. Ces frappes qui interviennent en pleine crise politique en Ukraine. Le président a limogé hier une haute responsable de la présidence après une opération anticorruption. De quoi fragiliser un peu plus Volodymyr Zelensky, défié déjà mardi par son ancien allié Mikhailo Fedorov. L'ex-ministre de la Défense, limogé le mois dernier, a appelé à l'organisation d'élections alors que la loi martiale en vigueur depuis 2022 empêche la tenue de tout scrutin. Le limogeage de Fedorov, très populaire, a provoqué des manifestations dans le pays ces dernières semaines et pour sortir de la crise, le président a nommé à la Défense Yevgeny Kmara. Ce n'était pas son premier choix, mais c'est un profil respecté, comme l'explique Dominique Harel, professeur de sciences politiques, titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa.
Ce qu'on sait factuellement, c'est que ce n'était pas le plan de Zelensky. Zelensky a voulu nommer un autre candidat la mi-juillet. Mais il y avait, disons, un très, très profond scepticisme de la part d'à peu près tout le monde dans la classe politique que ce personnage-là allait vraiment allait être incliné à poursuivre des réformes. Mais sa candidature, en fait, a été rejetée le lendemain par le Parlement. Donc, Zelensky a dû rétro-pédaler et puis, soudainement, c'est Khmara qui se retrouve ministre de la Défense. Disons qu'il y avait une précipitation. Il est allé chercher quelqu'un qui a tout de même une réputation et un respect pour ce qu'il a fait dans ses fonctions là, des forces spéciales du SBU. Mais c'est pas particulièrement un profil qui laisse entrevoir, encore une fois, une volonté de réformer l'appareil de la défense.
Le professeur de sciences politiques Dominique Harel, propos recueillis par Justine Fontaine. On retrouvera dans une heure notre correspondante à Kiev pour reparler de ces tensions au sein du gouvernement ukrainien. On l'évoquera aussi avec notre invitée Tetiana Shevchuk de l'ONG Anticorruption Action Centre. Elle répondra aux questions d'Arnaud Pontus dans deux heures. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent à Zamboy, à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun. Des dizaines de personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale mardi. Les éboulements de ce type sont assez fréquents dans la zone. Sofiane Amazian, les sols y sont particulièrement riches et souvent exploités de manière illégale.
24 heures après le drame à Zamboy, dans l'ouest de la Centrafrique, le ministre des Mines, Rufin Benam Beltungu, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Le gouvernement camerounais a confirmé la présence de ressortissants parmi les victimes dans un communiqué, tout en assurant que des mesures ont été prises pour assurer le transfert des corps. Cet éboulement a été provoqué par un effondrement de plusieurs galeries souterraines dans lesquelles des mineurs opéraient, précise le parquet de Baboua dans un communiqué. Une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte et confié au commissariat spécial de Beloko afin notamment, je cite, de déterminer le bilan des dégâts, identifier les victimes ou leurs ayants droit, mais encore déterminer les causes exactes de l'effondrement. Alors que les partis d'opposition camerounais et centrafricains fustigent l'exploitation illégale de minerais, le gouvernement camerounais a estimé récemment que 200 sociétés exercent des activités minières sans autorisation régulière dans le pays. Pour rappel, un éboulement similaire en juin dernier avait fait plusieurs dizaines de morts en République centrafricaine déjà, dans la mine de Bembari, près de la frontière camerounaise.
Sofiane Amazian. Après la diplomatie française, Reporters sans frontières confirme l'arrestation de deux Français au Togo, deux réalisateurs de la société de production Tony Comity. Ils étaient alors en tournage dans le nord, près de Kara, pour l'émission documentaire Les routes de l'impossible, avec leur fixeur togolais. RSF demande leur libération immédiate. Cela fait plus de 3 semaines qu'ils sont en détention. Dans l'actualité également, c'est nouvelle menace de Donald Trump. Le président américain promet de terribles mesures économiques contre tout pays qui aiderait l'Iran dans son effort de guerre. Message publié il y a quelques heures sur son réseau social. La veille, Téhéran formulait une menace similaire dirigée contre les pays du Golfe. Les hostilités ont perdu en intensité ces derniers jours, mais il y a quelques frappes parfois dans le Golfe, notamment opérées par les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran. Après s'être concentrés sur le détroit d'Ormuz, ces rebelles s'intéressent beaucoup ces dernière semaine à celui de Bab el-Mandeb, le long de la mer Rouge. Le gouvernement yéménite s'inquiète d'une possible offensive à venir, Guilhem Deltey.
Actuellement, les Houthis contrôlent une grande partie du littoral yéménite sur la mer Rouge, y compris le principal port, Hodeïda. Mais dans ce pays divisé, les côtes les plus au sud, celles où se trouve le détroit de Bab el-Mandeb, sont toujours restées aux mains de forces qui leur sont hostiles. Mais selon le ministre de l'Information du gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie Saoudite, les Houthis, alliés de l'Iran, voudraient désormais étendre leur contrôle vers le sud. Il en veut pour preuve un renforcement des effectifs militaires du groupe rebelle et des attaques ces dernières semaines contre des ports ainsi que, dit-il, les moyens navals du gouvernement. Les Houthis eux-mêmes affirment avoir déployé près de 2000 hommes le long de cette côte. L'objectif d'une telle offensive serait le port de Mokka ainsi que des îles situées à proximité immédiate du détroit. S'ils parvenaient à prendre le contrôle de Bab el-Mandeb, les Houthis renforceraient leur pression sur l'économie saoudienne, car c'est par la mer Rouge et Bab el-Mandeb désormais que le royaume exporte son pétrole vers ses principaux clients en Asie. Et après la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, il renforcerait l'isolement des monarchies pétrolières arabes.
RFI, 6h09 à Paris, en France, le survol illégal de drones perturbe le fonctionnement d'un hôpital de l'Est. Depuis 3 semaines, les hélicoptères de la sécurité civile et du SAMU ne se posent plus de nuit au grand hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg par crainte de collision avec ces drones. Ces appareils livrent illégalement donc des détenus dans une prison toute proche. Résultat, les hélicoptères d'urgence doivent atterrir un peu plus loin, ce qui entraîne, Laurence Théo, des risques pour la santé des malades pris en charge.
Ce retard dans l'acheminement fait peser un risque vital sur les patients, avertit le professeur Julien Potcher, chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital de Strasbourg.
Le délai de transport est allongé de 30 à 40 minutes, ce qui peut poser de réels problèmes, notamment en cas de situation hémorragique.
Justine Gerbeau, porte-parole de la direction de l'administration pénitentiaire, revient sur les limites du dispositif anti-drone de la maison d'arrêt de Strasbourg.
Il se trouve que les drones, pour accéder à l'établissement pénitentiaire, passent par l'hôpital et possiblement l'espace aérien de l'hôpital. Notre dispositif anti-drone n'a vocation qu'à sécuriser l'établissement et donc ne peut pas rejaillir sur la sécurité, si j'ose dire, de l'établissement hospitalier.
Toutefois, Justine Gerbeau précise que l'administration pénitentiaire prend très au sérieux la situation que rencontre l'hôpital de Strasbourg.
Donc on travaille en étroite collaboration avec les forces de sécurité intérieure pour faciliter la localisation et l'interpellation des télépilotes. Et on travaille également en lien avec l'hôpital pour les accompagner dans le déploiement éventuel de leur propre dispositif de sécurité anti-drone.
Comme partout en France, les détenus de Strasbourg se font livrer drogue et téléphone portable de nuit par drone.
Laurence Théo. En football, l'inquiétude autour de la santé de Jamal Musiala, joueur du Bayern Munich. Le milieu de terrain a fait deux malaises en trois jours. Il explique être victime d'un dysfonctionnement neurologique et il a tenu, Pauline Guillou, à rassurer les supporters.
En plein match amical face à Leipzig, Jamal Musiala, milieu offensif du Bayern Munich, sur le terrain depuis moins d'un quart d'heure, se fige avant de s'effondrer dans les bras de l'un de ses coéquipiers. Une scène inquiétante puisqu'elle se répète trois jours plus tard sur la pelouse du FC Heidenheim. Deux malaises consécutifs et le joueur de 23 ans, grand talent de la Mannschaft et du Bayern Munich, sort du silence. « Je vais bien », écrit-il, avant d'expliquer souffrir d'un dysfonctionnement neurologique à l'origine de ses malaises. Des malaises effrayants, mais qui font partie de son quotidien. Explique-t-il, ajoutant ne pas avoir reçu de contre-indication à la pratique du sport de haut niveau. Pas de contre-indication, mais quelques doutes pour la suite. Même si Jamal Musiala affirme que ses absences sont facilement traitables, le président d'honneur du Bayern Munich évoque un drame pour le joueur et un problème à moyen terme pour le club. « Nous étions au courant », dit Uli Hoeneß, mais pas préparé à cela. Double champion d'Allemagne, le Bayern Munich peut-il compter à 100% sur lui, alors que le club bavarois est sur le point de remettre son titre en jeu et de retrouver son statut de favori pour la Ligue des Champions.
Pauline Guillou, RFI, 6h12 à Paris. On poursuit notre tour du monde de l'actualité avec nos chroniques.
RFI, toute l'actualité.
Marion Cazanov.
On sera d'abord au Liban, où l'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud malgré l'accord de cessez-le-feu conclu avec Beyrouth. Des frappes, mais aussi des incendies provoqués dans certains villages et qui détruisent des hectares entiers de cultures. Le reportage international nous emmènera sur les bords de l'Elbe, dans l'est de l'Allemagne. La baisse historique du niveau de l'eau, due à la sécheresse, fait ressurgir des pierres de la faim, témoins des sécheresses historiques du passé. Un aperçu de la rentrée littéraire en France avec la sortie d'Un corps indocile, second roman de la franco-camerounaise Oswald Le Watt. Elle sera notre invitée culture. Tout cela avant le retour de l'actualité africaine sur RFI. Quel avenir pour la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban? Le président libanais Joseph Aoun plaide pour une prolongation du mandat de la FINUL qui expire à la fin de l'année. Israël s'y oppose. Joseph Aoun en parlera aujourd'hui à Rome, en Italie. C'est là que se sont tenues, il y a quelques mois déjà, les négociations entre le Liban et Israël pour un accord cadre qui prévoit le désarmement du Hezbollah et un retrait progressif de l'armée israélienne dans le sud. Mais en attendant, l'armée israélienne continue de viser des villages, mais aussi des ressources comme l'eau et les forêts. Des habitants et des ONG parlent de politique de la terre brûlée. Amélie David, vous êtes notre correspondante au Liban. Encore en début de semaine, Amélie, l'armée israélienne a provoqué des feux près de Nabatieh et ce n'est pas la première fois.
Non, pas du tout. Il y a quelques semaines, c'est le village frontalier de Yaroun qui a connu d'importants incendies. Selon les habitants, l'armée israélienne a mis le feu de manière intentionnelle à ses ressources naturelles après avoir détruit tout le village, les maisons, les lieux de culte, les sites archéologiques. Écoutez ce que dit le maire Hafez Racham qui suit la situation grâce aux images satellites.
Il ne reste plus rien. Ils ont brûlé tous les arbres qui restaient. Évidemment, en brûlant les oliviers et les arbres fruitiers, ils cherchent à en faire une terre impropre à la vie, une terre brûlée, inhabitable, où il ne reste plus rien, car cela montre qu'il y avait autrefois de la vie.
Et comment ça se passe, Amélie, sur place pour éteindre ces feux ?
Alors d'après Hussein Fakir, qui est le chef de la défense civile de Nabatieh, 90% de ces feux sont causés par l'armée israélienne et en territoire occupé, les secours doivent obtenir l'autorisation du mécanisme de supervision du cessez-le-feu, donc l'approbation de l'armée israélienne pour pouvoir intervenir. Mais le feu vert n'est parfois pas donné ou plusieurs heures plus tard, alors que le feu s'est déjà répandu. Et quand enfin les secouristes peuvent intervenir, ils sont parfois attaqués, comme l'explique Hussein Fakir.
Bien sûr, parfois des bombardements ont lieu dans des zones proches de l'endroit où se trouvent les pompiers afin de les contraindre à se retirer de la zone et de les empêcher d'avancer. La plupart du temps, il y a des tirs ou bien des bombes sonores sont larguées ou encore des bombardements ont lieu à proximité des zones où se trouvent les pompiers de manière à les contraindre à se retirer.
Et vous avez rencontré, Amélie, les habitants de Kfar Chouba qui vous ont raconté ces incendies déclenchés dans leur village.
En effet, Kfar Chouba, village à majorité sunnite qui se trouve officiellement à la frontière de la...
Militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
Eh bien, on va déjà habituer nos auditeurs à ces bruits qu'ils vont entendre.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Failure, more intense than ever. My faith.
Tu veux faire l'americano? C'est ça, pauvre mec. Essaye pas de t'interposer. Quand l'underground est sur le point d'exploser. S-H-E-R-Y-O et K-O-U-E. Attends, laisse-moi te dire deux, trois petits trucs. Ici, on fait pas de ciné. Crois-moi, tu testes, tu gagnes 3 mois de rééducation chez le kiné. Faut que t'acceptes le fait qu'on pète en 2-4-7. Que notre rap frappe sec et que votre rap est absurde. Faut que t'absorbes chaque texte comme les galériens absorbent la drogue lorsqu'ils ont pas de job. Faut que tu te chilles avant qu'on te kill. Tu peux te plaindre à De Burtel, de la Belle et V2. T'iras quand même en D2. Ouais, j'suis un haineux. Ramène les bras que t'exploites, on verra ce que j'fais d'eux. Tu sais, qui est-ce qui mitraille en freestyle? Pendant que ta garde se saoule avec moult de ripaille, j'suis le type fly qui pisse et chie sur Sky. Celui qui reste underground pendant que ta merde continue à se vendre. J'fais pas partie de ceux qui comptent se rendre, mais de ceux qui comptent te ken. Rentre ça dans ton crâne et dans celui de Shuriken. Pour présenter le rap que les radios et les majors adorent. Pendant qu'on restaure le hardcore de la banlieue nord, sur n'importe quel support. Regarde nous pisser sur tes productions 100% pur porc. J'crois pas que tu saches qui je suis, donc ferme ta gueule et écoute bien ce qui suit. Fuck ça, les lobes s'attaquent au ska, flip quand nos beats durcissent. Ça cache, ça rage plus vite que flash quand les beats surgissent. Les puristes nous donnent tous 10 sur 10, donc pourquoi contredire? Puisque contredire, c'est step contre le pire. Tu sais pas à quoi tu t'exposes quand des projectiles tout droit sortis du sous-sol explosent. Avec des ogives chargées de rimes nocives qui détruisent la moitié de la ville où ces technos vivent. Ma clique fait pas de détails et des fourrailles, les racks qui soient déguisés en cowboy ou en samouraï. Donc remballe tes clips de merde, tes disques de merde, tes lyrics de merde. Mec, face à nous tu risques de perdre. Remballe tes films de merde, tes rimes de merde, tes lyrics de merde, face à nous tu risques de perdre. Remballe tes clips de merde, ton équipe de merde, face à Renfalche en clash tu risques de perdre. Remballe tes disques de merde, tes lyrics de merde, tes films de merde, face à nous tu risques de perdre. J'ai au kick, ce qui semble être l'unique technique apte à pouvoir réhabiliter le rap, rien à voir avec ce que tu captes toutes les secondes sur les ondes. En fait, je pose les rimes comme on pose des bombes. Explose ceux qui osent répondre. Liquide, c'est MC stupide et leur producteur cupide. Reste lucide, t'es pas un criminel, t'es qu'une petite frappe face au flow qui kidnappe. On t'encercle et on te sert comme Vigipirate. Regarde nous réussir tout ce que tes black MCs ratent. Je l'ai déjà dit, j'ai pas besoin d'aide. Je reste underground du moment que je reste intègre. Akhenaton me tienne bien le sgeg qui continue à écrire les textes de Bambi Cruz et à produire plein de merde, t'es rempli de flouze. Donc remballe tes histoires de cachet de gun. Sache que des mecs d'enfal, j'rappe pas pour passer sur fun. Remballe tes clips de merde, tes disques de merde, tes lyrics de merde. Mec, face à nous, tu risques de perdre. Remballe tes clips de merde, tes rimes de merde, ton équipe de merde, face à nous, tu risques de perdre. Remballe tes clips de merde, ton équipe de merde, face à enfal, en clash, tu risques de perdre. Remballe tes films de merde, tes rimes de merde, face à Ekwe et Chirio, tu risques de perdre.
C'est ça, mon frère, j'croyais pourtant t'avoir entendu dire qu'on enterre l'âge de guerre, fallait s'y attendre comme me le disait Farid, car l'humilité demeure le panache des grands, quand les vieilles perfides de ton genre s'égarent complètement. Un conseil frérot, fais une pause, ton flow approche doucement de la ménopause. Laisse-moi te rappeler une chose, depuis Skyrock a mis ton dernier morceau sur le trottoir, je ne vois plus rien de contradictoire. Alors de quoi tu parles? Voici le premier molard d'une longue série, car je suis la frénésie de ton départ, point barre, celle qui conduira ton œuvre dans les poubelles de l'histoire. La barre est haute, middle kick dans les côtes, et ton single chicle par terre. À qui la faute? Répond avant que ça dégénère. Je reste underground et toi reste tranquille. Surveille ton langage, ta vieille tête est mise à prix. Des quartiers pauvres de Marseille jusqu'en banlieue de Paris.
Remballe tes clips de merde, tes disques de merde, tes lyrics de merde. Mec, face à nous, tu risques de perdre. Remballe tes rimes de merde, tes films de merde, ton équipe de merde, face à nous, tu risques de perdre. Remballe tes films de merde, ton équipe de merde, face à Renfalche en clash, tu risques de perdre. Remballe tes clips de merde, tes disques de merde, face à Ekwe et Chirio, tu risques de perdre. T'as capté, espèce de taspé, emballe tout un cacaillerie, tous tes trucs pharaoniques et ta merde. Dégage de halle, ainsi les bestes qui s'installent. En falche la rumeur, écoué chez Rio, spécial homicide, dis-je pro, NAVEA, la Fonkiza